Il est 11h30, Infomag, Jean-François Bodin.
Une pause dans les discussions entre partenaires calédoniens autour du ministre des Outre-mer. Elles reprendront cet après-midi. Emmanuel Valls avait plusieurs rendez-vous ce matin. Séance express au Congrès, les élus ont émis un avis favorable sur la liste des personnalités qualifiées indépendantes désignées par l'ONU pour superviser la révision des listes électorales provinciales. Le savoir-faire calédonien récompensé à Paris, la Casse du Miel à Lifou a remporté la médaille d'or au Salon de l'agriculture. Les relations franco-algériennes se tendent de nouveau. Alger s'exonère de toute responsabilité dans la brouille diplomatique qui dure depuis plusieurs mois et refuse toujours d'accueillir ses ressortissants expulsés de France. Le difficile début des négociations entre partenaires sociaux pour améliorer la réforme des retraites. FO s'est retiré des discussions. Et puis en sport du tennis, et le français Quentin Alice qualifié pour les demi-finales du tournoi de Doha. En squash, c'est ce soir les demi-finales du tournoi international de Nouméa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi comme tous les vendredis par le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Votre invité sera aujourd'hui Harold Martin.
Oui, Harold Martin qui sera l'invité du magazine Transparence en tant que signataire de l'accord de Nouméa. Il sera interrogé sur ce qu'il attend des négociations sur l'avenir institutionnel qui ont débuté mercredi autour du ministre des Outre-mer. Il livrera également son analyse sur les premières déclarations faites sur le territoire par Manuel Valls. Harold Martin, que nous retrouvons d'ici une petite demi-heure juste après votre journal.
Et l'actualité politique, ce sera aussi dans le club politique à 16h45.
Et nous y parlerons forcément de la visite de Manuel Valls et des différentes déclarations faites par le ministre des Outre-mer. Nous reviendrons aussi naturellement sur l'ouverture des discussions sur l'avenir institutionnel, même si peu de choses ont filtré, mais nous pourrons parler de la méthode qui a été choisie et de l'ordre du jour qui a été fixé. Et puis nous ferons un point également sur la notion de peuple premier, une notion qui, vous le savez, fait débat et qui est d'actualité. On parle de tout cela dans le club politique qui débute cet après-midi à 16h45.
Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris et président de l'Association française des maires, était notre invité ce matin à 7h30 pour revenir sur les engagements pris par le ministre des Outre-mer à l'égard des communes de Nouvelle-Calédonie. Les maires ont pu faire part de leurs préoccupations et de leurs besoins lors d'un déjeuner mercredi avec le ministre des Outre-mer. Ils ont notamment évoqué leur situation financière et budgétaire et Pascal Vittori parle d'un tsunami financier auquel doivent faire face les communes. Si l'État n'était pas intervenu en fin d'année, elles auraient été en cessation de paiement, déclare le président de l'Association française des maires, avant de confirmer l'aide au fonctionnement garantie par l'État qui va abonder le FIP, le Fonds intercommunal de péréquation.
Les budgets de fonctionnement sont alimentés par le budget de répartition de la Nouvelle-Calédonie et donc il a annoncé une augmentation de ce budget de répartition. C'est-à-dire que l'État vient compenser les pertes fiscales de la Nouvelle-Calédonie. Et donc on avait l'an dernier un budget de répartition qui était d'un peu plus de 80 milliards CFP. Donc l'État se propose de venir le compléter à hauteur de 100 ou 104 milliards. Bon, les négociations sont toujours en cours avec Bercy. Mais en tout cas, ça nous permettrait non pas d'avoir une année normale, mais en tout cas de se rapprocher d'une année normale.
À cela s'ajoute la prolongation d'un an des contrats de développement et la garantie des prêts pour les communes et les collectivités de Nouvelle-Calédonie. Et enfin, l'aide à la reconstruction pour les 3 communes de l'agglomération et les 56 bâtiments publics qui doivent être reconstruits.
Jusqu'à présent, donc, l'État s'engageait à financer 100% de la reconstruction des écoles et 70% de la reconstruction des bâtiments publics. Et là, l'État fait un effort supplémentaire. Puisque les finances des communes n'auraient pas permis d'apporter les 30% manquants, l'État a monté son aide jusqu'à 80% pour la reconstruction des bâtiments publics. Et surtout, pour être sûr que les travaux démarrent rapidement, l'État a accepté d'apporter 30% d'avance sur les travaux, alors que d'habitude, l'État paye une fois les travaux réalisés. Et donc cette avance, elle va aller de 30% jusqu'à 50% pour s'assurer que les travaux démarrent bien. Et c'est très important parce que il faut que les travaux démarrent rapidement pour qu'on puisse donner de l'activité à nos entreprises et sauver notamment les emplois du BTP.
Pascal Vittori qui a aussi évoqué évidemment les discussions sur l'avenir institutionnel auquel il participe depuis mercredi. Vous pouvez retrouver cette interview en intégralité sur notre site internet. Les discussions sur l'avenir institutionnel qui font une pause ce matin, elles vont reprendre cet après-midi et se poursuivre demain. Mais ce matin, Manuel Valls avait plusieurs rendez-vous et notamment un rendez-vous diplomatique pour le ministre des Outre-mer puisqu'il s'est entretenu avec Véronique Roger-Lacan, l'ambassadeur de France pour le Pacifique. Pour Manuel Valls, l'insertion de la Nouvelle-Calédonie dans sa zone géographique est essentiel.
Je crois tout à fait essentiel que grâce à la Nouvelle-Calédonie, la France se déploie, développe les relations dans cette région du Pacifique. Il y a des enjeux considérables autour du réchauffement climatique, des coopérations dans le domaine de l'énergie, de l'économie, sur le plan universitaire, bien évidemment, et sur le plan diplomatique. La France est là, présente dans cette région du monde pour faire valoir évidemment ses intérêts stratégiques et politiques, et nous entendons bien les exercer. C'est une chance, c'est un atout d'avoir un poste ici, de déployer son action. Il y a de nombreux projets à parfaire, et moi j'invite les élus de la Nouvelle-Calédonie qui ont des compétences importantes dans ce domaine-là à les utiliser dans le domaine de la coopération universitaire. Il faut un véritable Erasmus du Pacifique, de la connectivité aérienne, développement économique, économie verte et bleue, tourisme sont évidemment des points sur lesquels nous devons être extrêmement engagés.
La coopération régionale doit se faire en toute transparence, affirme le ministre des Outre-mer qui met en garde contre toute ingérence.
Cette coopération, le travail que l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie mènent ensemble, doit se faire aussi évidemment avec des règles du jeu très claires, dans une très grande transparence. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je suis très déterminé, le gouvernement de la France est très déterminé à lutter contre toutes les ingérences étrangères. Et que chacun le comprenne bien, l'opinion, la liberté de parole et de pensée, d'action, de réfléchir sur les questions internationales sont totalement préservées. Mais en revanche, participer à des forums, à des actions dont le but est de nuire aux intérêts stratégiques de la France, ici comme ailleurs, ça c'est inacceptable. Et l'État français mettra tous les moyens pour l'empêcher. Nous ne l'accepterons pas que des élus ou des responsables politiques participent avec des pays qui nuisent aux intérêts stratégiques de la France, à nos intérêts vitaux, avec la volonté de diviser et de créer des conditions où on cherche à nous affaiblir. C'est tout le contraire qui en découlera, c'est-à-dire l'affirmation très forte d'une présence ici en Nouvelle-Calédonie, d'un lien étroit entre la Nouvelle-Calédonie et la France, d'une coopération, d'une présence dans le Pacifique.
Manuel Valls, qui, au travers de ses propos très fermes, met en cause directement l'Azerbaïdjan et le groupe d'initiative Bakou.
Bakou, à travers son groupe, l'Azerbaïdjan, en mettant des moyens, cherche non seulement à influencer le débat politique, à utiliser des moments de crise, comme celui que la Nouvelle-Calédonie a vécu, mais utilise aussi, cherche une politique d'ingérence, de déstabilisation. Tous les acteurs économiques, sociaux, politiques, et dans quelques domaines que ce soit bien conscients. Réclamer plus de démocratie, plus de protection avec un pays qui ne pratique ni la démocratie, qui a mené une véritable épuration ethnique dans le Haut-Karabakh, qui s'en est pris à des populations qui étaient installées depuis des années, montre bien que ses intérêts ne sont pas la protection de je ne sais qui ici, mais c'est de nuire à la France. Donc moi je condamne toutes ces initiatives, mais il ne suffit pas de condamner, nous allons être actifs et nous le sommes déjà.
Une condamnation que partage bien sûr Radio Rythme Bleu, qui a toujours dénoncé les tentatives d'ingérence et de déstabilisation de l'Azerbaïdjan et qui continuera à le faire. De son côté, Véronique Roger-Lacan précise qu'elle a échangé avec le ministre des Outre-mer sur la façon de contribuer à l'insertion des territoires français dans leur environnement géographique.
La nécessité d'avoir une politique régionale et de contribuer à l'insertion des territoires français du Pacifique dans leur environnement régional, dans le cadre de la loi organique qui leur donne énormément de compétences de relations extérieures. Ces compétences de relations extérieures doivent s'exercer avec l'accord de l'État et dans le cadre des engagements internationaux de la République française, mais c'est une très large palette de possibilités qu'ils doivent exercer.
Et parmi les projets évoqués avec le ministre, celui d'un Erasmus du Pacifique, l'ambassadeur de France pour le Pacifique en a précisé les contours.
Les contours, c'est de faire de sorte qu'il y ait de la mobilité d'étudiants dans la zone, de favoriser la mobilité des étudiants calédoniens vers l'extérieur, donc de faire de sorte qu'ils aient des bourses, mais qu'ils aient aussi des notions d'anglais et de faire venir des professeurs néo-zélandais ou australiens. Il est possible que la Nouvelle-Zélande, qui est en train de regarder son aide au développement, ait un intérêt à travailler avec nous dans cette perspective-là, faire venir un ou deux professeurs néo-zélandais qui fassent un trimestre, un semestre par an en Nouvelle-Calédonie dans leur enseignement, leur spécialité, ce qui fait que ça sera un facteur d'attractivité pour les étudiants anglophones de la région pour venir étudier ici en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y aura des cours en anglais, mais aussi une possibilité pour les étudiants calédoniens d'avoir des cours en anglais et de pouvoir ensuite se déployer dans la région. Donc c'est un des projets d'insertion des territoires dans leur environnement régional.
Et Véronique Roger-Lacan insiste par ailleurs sur la nécessité de faire connaître la réalité du dossier calédonien dans le Pacifique, comme cela a été le cas l'an dernier, en recevant des responsables du Forum des îles du Pacifique. Manuel Valls a ensuite poursuivi sa matinée en prenant la direction de l'école de Normandie pour une cérémonie dans l'enceinte de l'école de la police nationale. Lionel Sabot.
Et après avoir passé en revue les femmes et les hommes des différentes unités de la direction territoriale de la police nationale, après avoir déposé une gerbe au pied de la stèle honorant les policiers morts pour la France dans l'exercice de leurs fonctions, Manuel Valls a décoré de la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin. Échelon argent, quatre policiers de la BAC qui ont été visés par des tirs d'armes à feu après le cambriolage d'une armurerie à Ducos. C'était au lendemain du début des émeutes du mois de mai dernier. Parmi ces quatre hommes de la brigade anticriminalité, deux ont été très grièvement blessés. Écoutez le ministre des Outre-mer.
Je tenais à être là pour saluer, comme je l'ai fait avec les gendarmes il y a quelques jours, pour saluer l'engagement, le courage, le professionnalisme des policiers. Ils ont risqué leur vie pour protéger les personnes et les biens ici dans le Grand Nouméa. J'ai voulu saluer bien sûr l'engagement et le courage en les décorant de quatre policiers dont deux ont été blessés très gravement. Les faits qui se sont déroulés montrent la violence des émeutiers, ce qui montre bien la violence et la folie qui s'est emparée il y a quelques mois de ce territoire. Face à la violence, celle-ci trouvera toujours une réponse de l'État, de la justice et des forces de sécurité intérieure. Il y a une très grande mobilisation sous l'autorité du haut-commissaire pour que les choses qui se sont passées, la violence qui se sont déroulées il y a quelques mois, ne puissent pas se reproduire. Mais la justice passera.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités civiles et militaires, le député Nicolas Metzdorf, le sénateur Georges Naturel, le président du gouvernement Alcide Ponga, la présidente de la province sud Sonia Bakès, mais aussi le général de division Nicolas Mateos, commandant de la gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie, le général de division Yann Latil, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, Benoît Godard, le directeur des douanes en Nouvelle-Calédonie, présent également, bien évidemment, pour accompagner Manuel Valls tout au long de cette cérémonie à l'école de police, Marjorie Ghisoli, la directrice territoriale de la police nationale.
Les troupes ont souffert, mais je dirais comme tous les habitants de Nouméa, mais je peux vous confirmer, vous assurer qu'on a des policiers engagés, valeureux, qui aiment leur métier et qui ont bien évidemment envie de poursuivre leur métier, leur mission de sécurité et de tranquillité des personnes, enfin des citoyens de Nouméa, pour ne parler que de la ville de Nouméa et bien évidemment de tout ce travail qui est mené au quotidien en partenariat avec les policiers municipaux évidemment, et je tiens à le souligner, en partenariat avec les gendarmes qui sont avec nous sur le territoire, et donc de faire au mieux notre métier. Ils en sont évidemment très engagés sur ce domaine-là et on peut compter sur eux.
Et j'ajoute qu'à l'issue de cette cérémonie, le ministre des Outre-mer s'est longuement entretenu avec les cadets de la République, de jeunes Calédoniens qui viennent d'intégrer l'école de police afin notamment de préparer le concours de gardien de la paix.
Et après cette cérémonie, Manuel Valls est donc retourné au Haut-Commissariat où il préside en ce moment une rencontre avec les acteurs du Nickel. Il reprendra les discussions avec les partenaires politiques cet après-midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS avec la réponse à la question d'hier et 80% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que c'est un bon signe que le ministre des Outre-mer ait décidé de prolonger son séjour en Nouvelle-Calédonie de 24 heures. Ils sont 20% à être d'un avis contraire. Voici la question du jour. Approuvez-vous la décision de l'ARCOM de fermer la chaîne de télévision C8 ? Si vous approuvez cette décision, vous tapez 1. Si vous ne l'approuvez pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La première pause de ce journal à 11h45. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Votre super pouvoir pour la rentrée, un budget maîtrisé. En ce moment, chez Groupama Pacifique, nous vous offrons jusqu'à 25% de remise à vie sur vos contrats auto, habitation et accident de la vie. C'est simple, plus de garantie égale plus d'économie. Pour en profiter, rendez-vous vite en agence ou sur notre site internet www.groupama-gan.nc. Offre valable jusqu'au 28 mars 2025 sur nos produits auto, habitation et accident de la vie. Voir conditions en agence. Groupama.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annoncelegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h 13h Infomag Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec d'abord en bref cet accident sur la route ce matin à Païta. Un choc frontal entre deux voitures s'est produit aux alentours de 5h sur la ligne droite de Port-la-Guerre. À bord des deux véhicules, 7 personnes. Heureusement, aucune n'a été gravement blessée. Deux personnes ont tout de même dû être évacuées vers le Médipôle. Les élus du Congrès réunis en séance extraordinaire ce matin, séance express de 10 minutes sans aucune prise de parole puisqu'il s'agissait simplement de rendre un avis sur la liste des personnalités qualifiées indépendantes désignées par l'ONU pour superviser la révision de la liste électorale provinciale au sein des commissions administratives spéciales. Les élus ont émis un avis favorable. Exercice réalisé chaque année, a rappelé le secrétaire général du Haut-Commissariat Stanislas Alfonsi.
C'est un exercice qui est récurrent puisqu'il s'inscrit dans la démarche de révision de la liste électorale spéciale pour les provinciales. C'est un exercice que nous réalisons chaque année. Le Congrès a été saisi pour examiner et fournir un avis sur la liste des personnalités qualifiées indépendantes qui ont été désignées par le secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies pour participer à ces commissions administratives spéciales dont le travail débutera le 1er mars et qui se terminera à la fin du mois d'avril. Les personnalités qualifiées indépendantes participeront à ces CAS, à ces commissions administratives spéciales, en compagnie de magistrats. Les personnalités qualifiées concernées, comme les magistrats concernés, sont tous expérimentés. Ils n'en sont pas à leur première en matière de révision de listes électorales spéciales pour les provinciales en Nouvelle-Calédonie. Certains sont venus à de nombreuses reprises. Pour notre part, pour ce que nous en avons vu, ce sont des gens dont l'expérience ne s'est pas démentie et dont la qualité a été systématiquement reconnue.
Augustin Loada sera le président des observateurs, originaire du Burkina Faso. Il a fait ses études en France depuis 2003, en tant qu'expert électoral, il a observé des élections en Afrique, aux États-Unis, au Canada. Il participe régulièrement depuis 2016 à la mission de l'ONU en Nouvelle-Calédonie en tant qu'expert électoral. L'association Citoyens Mondorien continue de militer pour le projet de viaduc. Elle tenait hier son assemblée générale. L'occasion de revenir sur l'année dernière marquée par l'enclavement de la partie sud de la commune en raison des graves violences à Saint-Louis. L'année dernière, l'association a œuvré pour faciliter la vie des habitants bloqués. Pour l'année prochaine, plusieurs projets seront au cœur de son action, notamment la route de contournement de Saint-Louis par la mer. Florent Perrin est le président de l'association Citoyens Mondorien.
C'est notre projet phare et comme il se poursuit, notamment au niveau de la province sud, puisque les études sont en cours, donc on a demandé à la présidente de venir nous voir et ce sera le 18 mars, donc on a passé l'information aussi.
Pour cette année 2025, qu'est-ce qu'il est prévu? Il y a un fonds déjà qui va être mis en place?
Oui, on souhaite mettre un fonds en place pour aider les victimes, notamment les victimes de carjacking, mais aussi de vol, pour pouvoir par exemple louer une voiture quelques jours pour les gens qui se retrouvent en difficulté. On aimerait aussi aller vulgariser l'idée du pont et aller expliquer aux gens du Grand Nouméa pourquoi la meilleure solution c'est un pont. Donc on fera des réunions dans le Grand Nouméa dans les prochaines semaines.
Et 200 personnes environ ont fait le déplacement pour participer à cette assemblée générale qui s'est tenue à la salle des communautés du Vallon d'Or. Le savoir-faire local brille à l'international. Le Salon de l'agriculture a débuté le 22 mars à Paris. 12 produits calédoniens ont été présentés aux différents concours. Et le miel de Lifou a obtenu une récompense, Charlotte Coulson.
Et pas des moindres, puisque c'est la médaille d'or qu'a réussi à décrocher l'entreprise La Case du Miel à Lifou. La récompense concerne son miel tropical foncé. Et c'est une grande fierté pour l'entreprise qui travaille avec une vingtaine d'apiculteurs sur Lifou. Paul Nekwang a fondé l'entreprise en 2019.
C'est une très grande satisfaction pour nous, pour toute l'équipe de la Case du Miel. L'année dernière, on avait déjà une médaille d'argent. Donc aujourd'hui, on est sur la première place du podium. Donc on est très fiers, très contents de cette distinction. On dit toujours que le plus beau label qu'un produit puisse avoir, c'est d'être primé dans un salon de renommée internationale. C'est une très grande satisfaction pour toute l'équipe. C'est aussi la pratique qu'on fait aujourd'hui depuis qu'on a créé la Case du Miel depuis 2019. On a toujours orienté au niveau de la stratégie sur la qualité du produit aussi, au niveau de la diversité de l'île. Et puis, c'est aussi grâce à un savoir-faire et aussi avec la baie noire qui est toujours sur l'île de Lifou.
Et il s'agit de la seule médaille glanée par le territoire au Salon de l'agriculture cette année. Écoutez Jean-Christophe Nieutou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche.
Malgré une participation en format réduit de la Nouvelle-Calédonie cette année aux côtés de nos compatriotes de Polynésie et de Wallis et Futuna, au sein du village du Pacifique. Nous avons eu quand même 12 produits qui ont été présentés dans 5 catégories, que sont la bière, le rhum, les eaux de vie, la charcuterie et enfin les miels. C'est dans cette dernière catégorie des miels que nous avons obtenu une seule médaille, mais pas des moindres, puisque c'est une médaille d'or qui a été obtenue par la Casse du Miel à Lifou, avec son miel tropical foncé. Et donc aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de recevoir pour la Casse du Miel le diplôme de la médaille d'or qui m'a été remis par le président du concours général agricole et le président du SIA. C'est l'occasion de mettre en avant quand même de bons produits locaux et malgré une situation difficile, nous sommes fiers de pouvoir les présenter ici à Paris au sein de la plus grande ferme de France.
Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, qui remettra le fameux diplôme à la Casse du Miel dès son retour sur le territoire.
Il est 11h51. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Et le ton monte entre Alger et Paris. Le pouvoir algérien refuse depuis des mois d'accueillir ses ressortissants sous OQTF expulsés de France. C'est le cas de l'homme qui a perpétré l'acte terroriste de Mulhouse le week-end dernier. Paris dénonce aussi l'incarcération arbitraire de l'écrivain Boualem Sansal. François Bayrou a annoncé vouloir revoir les accords franco-algériens de 1968. Alger n'a pas tardé à réagir. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
La réponse est parvenue par communiqué 24 heures après les annonces de François Bayrou. Où Alger s'exonère de toute responsabilité. L'Algérie n'a pris l'initiative d'aucune rupture. Elle s'est astreinte au calme, à la mesure et à la retenue, est-il écrit. Dans le détail, les autorités algériennes affirment que le droit français, les conventions bilatérales, le droit européen et le droit international sont tous du côté de l'Algérie. Et ce, alors que Bruno Retailleau a pointé du doigt à plusieurs reprises les manquements supposés d'Alger dans les procédures de réadmission. Alors l'Algérie évoque de son côté, je cite, le recours abusif et arbitraire de la France aux décisions administratif d'éloignement de ses ressortissants. L'administration Tebboune dit enfin rejeter catégoriquement les menaces et les ultimatums et affirme que la suspension des accords de 1968 entraînerait la remise en cause d'autres accords, sans préciser lesquels. L'extrême droite revancharde et haineuse aura réussi son pari, conclut le communiqué qui était attendu par Paris pour entamer les négociations, si tant est que celles-ci puissent avoir lieu.
L'ouverture des négociations sur les retraites marquée par la défection de forces ouvrières. Les partenaires sociaux ont 3 mois pour faire des propositions pour améliorer cette réforme. Le représentant de FO, Michel Boga, a donc quitté la table des négociations au bout de 20 minutes. Il estime que l'objectif d'équilibrer le système des retraites à l'horizon 2030, formulé dans un courrier du Premier ministre, est trop contraignante.
La lettre du gouvernement est un vrai carcan. Trouver ces milliards en 5 ans, c'est tout juste impossible, sauf à nous faire dire que la seule solution, c'est d'allonger de nouveau l'âge de départ à la retraite.
Malgré le retrait de forces ouvrières, ces négociations se sont déroulées en présence de l'ensemble des autres partenaires économiques et sociaux. En bref, nouvelle provocation de l'eurodéputée LFI Rima Hassan. Interrogée par Sud Radio, elle affirme que la famille Bibas, dont les corps ont été remis aux autorités israéliennes, n'ont pas été tués par leurs ravisseurs du Hamas, contrairement à l'expertise des médecins israéliens, et elle justifie l'action du mouvement terroriste palestinien qu'elle juge conforme au droit international. Le ministre de l'Intérieur envisage de saisir la justice pour apologie du terrorisme. « Je ne regrette rien », ce sont les mots de Mehdi Nemmouche devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le terroriste de 39 ans purge déjà une peine de prison à perpétuité pour l'attentat au musée juif de Bruxelles en 2014. Il est cette fois-ci jugé pour son rôle de geôlier de l'État islamique en Syrie. Il avait notamment assuré la garde de 4 journalistes otages français. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Sourire en coin, debout dans le box, Mehdi Nemmouche provoque une première fois la cour. Oui, j'ai rejoint la Syrie et les groupes terroristes et je ne regrette pas. Quand un groupe est attaqué, il faut prendre les armes face à lui. Sur le banc des parties civiles, les 4 anciens otages sont consternés, mains devant leur bouche, et le djihadiste poursuit sa tirade. En France, vous avez une armée pour vous défendre. Si elle tombe, vous n'aurez plus que le terrorisme pour vous défendre. C'est l'arme du pauvre, lance-t-il l'index en l'air, accusant l'Occident de millions de musulmans morts. Le président cherche alors à en savoir plus sur ses motivations de départ en Syrie. Secret défense, rétorque Medine Mouche sur un ton arrogant. Alors l'homme à la robe rouge insiste et l'accusé répond « Je n'y suis pas allé pour distribuer des boîtes de conserve ». Le président lui rappelle son rôle dans le service de sécurité et notamment dans les prisons de l'État islamique. Là aussi, secret défense, répond Medine Mouche, défiant du coin de l'œil les ex-otages assis en face de lui.
Allez, avant de passer au sport, signalons la disparition de Boris Spassky à l'âge de 88 ans. Cet ancien champion du monde d'échecs a dominé sa discipline pendant des années. On se souvient de son duel légendaire qu'il avait d'ailleurs perdu contre l'Américain Bobby Fischer en 1972. C'était en pleine guerre froide. Boris Spassky avait acquis la nationalité française. Il était retourné vivre à Moscou en 2012. Dans un instant, l'actualité sportive est ensuite, c'est le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Tous les lundis, chez Mobile, doublez vos points Conso Plus. Et ce n'est pas tout. Chaque lundi, Mobile offre à un gagnant ses achats en caisse. Ne manquez pas cette chance. Rendez-vous le lundi dans les stations mobiles participantes.
Mobile Energy lives here.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, avec Léo Fichon, on va d'abord parler de tennis et cet exploit signé Quentin Alice.
Le Français issu des qualifications a décroché son ticket pour les demi-finales de l'ATP 500 de Dubaï, une première dans sa carrière. La nuit dernière, Quentin Alice a dominé l'Italien Luca Nardi en 3-7 alors qu'il avait perdu le premier. On écoute le Français.
Ouais, la fin du match a été folle. J'ai raté des coups faciles. On a joué de nombreux rallyes. Certaines balles étaient vraiment limites. Je suis super content de cette victoire. Je suis passé par les qualifications. J'ai pas joué beaucoup de matchs avant d'arriver sur ce tournoi. Je passe une excellente semaine. Je joue vraiment bien. Je vais continuer de travailler dur et demain, je vais donner mon maximum contre Félix. Ce sera une revanche du match de la semaine dernière. Mais quoi qu'il arrive, je me sens bien et c'est de bon augure pour les prochaines semaines.
Et la nuit prochaine, à minuit, le Français de 28 ans affrontera Félix Auger-Aliassime, tombeur, lui, de l'expérimenté Marin Cilic. Les deux hommes se sont affrontés la semaine dernière à Doha et c'est le Canadien qui s'était imposé en 3-7.
Le sport en Calédonie avec les demi-finales de l'Open international de squash de Nouméa qui ont lieu ce soir.
Et il n'y a plus qu'un seul Calédonien en lice, Nicolas Masnet, soutenu par un public venu en masse. Le local de l'étape a dominé la numéro 3 française, Enora Viard, en 3-7. Dans le dernier carré, il affrontera à 19h Auguste Dussour, numéro 5 français et 34e mondial. Dans l'autre demi-finale, Baptiste Mazzotti, numéro 2 français, affrontera Sivasangari Subramanian, la numéro 1 malaisienne. La rencontre est prévue à 19h45.
Et puis on termine par un mot de football.
La sélection A de Nouvelle-Calédonie continue sa préparation aux qualifications à la Coupe du Monde. À 3 semaines de leur demi-finale océanienne contre Tahiti, les joueurs de Johan Sidaner affronteront Tigasport demain. Un match à huis clos programmé à 16h30 au stade Noumadélé. Une autre rencontre amicale est d'ores et déjà prévue pour la semaine prochaine contre notre club de Super League. Et puis, la sélection s'envolera pour la Nouvelle-Zélande autour du 16 mars.
Il sera midi dans quelques secondes.